Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Ouvrez grand vos oreilles, vous allez écouter l'émission Bibliomanie aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand avec à la technique Gaëlle de Radio Cartable qui a eu la gentillesse de venir nous accompagner pour, c'est très important, le son, la technique, et pour que cette émission ait lieu. Nous faisons un salut amical à Flo Descailloux qui est quelque part et qui pense à vous. Aujourd'hui, nous recevons Noël Herp pour un jeu des ménages. C'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé, bien sûr. Ça vient de paraître aux Nouvelles Attila. Noël Herp, vous êtes déjà venu. Ça fait, je ne sais plus, on se connaît, on finit par se connaître tous les deux.
Multirécidiviste.
Et ben voilà.
Mais j'ai plaisir à revenir sur les lieux du crime.
Exactement. Alors, jeu des ménages, c'est vrai. Alors, vous, vous êtes un spécialiste, vous êtes écrivain, cinéaste, performeur, spécialiste d'Éric Rohmer. Je crois qu'on en avait parlé une fois. On avait dû faire une émission autour d'Éric Rohmer, je pense.
C'est bien possible.
Et sur Bernard Pivot, vous étiez venu la dernière fois autour de Bernard Pivot, ça je me rappelle.
Oui, je ne suis pas un spécialiste de Bernard Pivot, mais là, en l'occurrence, c'était un livre plus littéraire, le livre sur Bernard Pivot.
Mais celui-là aussi, celui-là aussi. Et d'ailleurs, je me suis demandé, jeu des ménages, vous êtes performeur, est-ce que c'est une aussi, ça pourrait relever de la performance de déménager, comme ça, l'art de déménager, l'art de se trouver une nouvelle adresse?
Ce qui relève peut-être de la performance dans le livre, c'est le fait d'avoir déménagé pour écrire.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en effet, j'ai le sentiment... Je m'en suis rendu compte sur le moment, d'ailleurs, que ce coup de tête qui m'a amené comme ça du jour au lendemain à quitter mon rez-de-chaussée de la rue Saint-Ambroise, non loin d'ici, pour trouver un autre appartement où il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de nécessité cruciale, mais il y avait sans doute, plus ou moins consciemment, la nécessité d'écrire un livre et d'avoir un sujet. J'avais pas de sujet. Et je me suis dit, voilà un bon sujet. Donc c'est vivre pour écrire ou agir pour écrire. Donc en ce sens, c'est de la performance, oui.
C'est de la performance. Alors, Jeu des ménages, c'est un titre à double sens, parce que parfois, moi je me rappelle ma grand-mère, elle disait, il déménage, ça veut dire qu'il était déraisonné, il était un petit peu fou, il perdait ses repères habituels. Et c'est vrai que la notion de boussole aussi, de l'être déboussolé, rechercher sa boussole, c'est important aussi dans votre livre. C'est un récit d'ailleurs, Noël Herp.
Oui, c'est un récit.
Mais ça aurait pu être un roman.
En tout cas, je pense que je suis pas sûr d'être capable d'écrire des romans. Disons qu'il y a, il y a du romanesque, il y a une sorte de désir de fiction, un désir. Parce que finalement, ce que met en branle le processus de la recherche d'appartement, puisque c'est le sujet du livre, c'est pas tellement le déménagement en fait, c'est surtout la recherche d'appartement.
La recherche d'un lieu.
La recherche d'un lieu. Un lieu où écrire, ouais. Mais à chaque fois on se projette dans un roman, ou dans une pièce, ou dans un film. Mais enfin, dans une illusion, et dans la fiction que ça va aller mieux, qu'on va rencontrer l'âme sœur, que tout va bien se passer, etc. Donc il y a toute une rêverie qui se met en place. Et c'est cette espèce de processus de naissance de la fiction qui m'intéresse. Petite alchimie qui fait qu'il y a plein de lieux, vous arrivez, la fiction s'effondre, vous dites c'est pas possible, parce que les photos étaient trompeuses, l'annonce était fallacieuse, et puis il y a des lieux où tout d'un coup l'alchimie prend, et c'est cette petite naissance, ou l'effondrement d'ailleurs, de la fiction qui m'intéresse, hein, le commencement ou la fin de l'illusion fictionnelle, à travers plein de petits chapitres, puisque finalement à chaque fois que je visite un quartier différent, la possibilité d'une nouvelle histoire se remet en place ou se détricote.
Alors j'avais reçu Thomas Clair qui a écrit un livre un petit peu comparable au, on pourrait dire, lui c'est sur le 18e arrondissement, c'est autre chose. Vous, c'est un livre un peu trompeur finalement, parce que on se dit c'est un petit livre, voilà, c'est un petit, mais il se lit lentement. C'est très la notion du temps dans votre livre. On passe d'une phrase à l'autre, mais c'est comme si on passait d'un livre à l'autre. Le temps est comme diffracté. Enfin, je veux dire, on est dans une bulle spatio-temporelle. Ça pourrait être un livre de chevet parce que je ne sais pas pourquoi le temps de lecture est assez lent, alors que l'écriture, ça va, c'est très limpide, c'est très agréable à lire. Ça n'a rien à voir. Simplement, peut-être le temps de votre recherche. Mais on prend le temps de cheminer avec vous. C'est très, très. C'est ce que j'ai constaté en vous lisant, en tous les cas.
Bah, c'est peut-être ce qui me distingue justement du travail de Thomas Clerc, qui est plutôt un écrivain de l'espace, de la géographie, de la déambulation dans l'espace, et, alors que moi je serais plutôt un écrivain du temps et de la mémoire, et je, voilà, et disons qu'il y a des espèces de cristaux de temps comme ça, qui sont souvent liés d'ailleurs à des souvenirs de films ou à des souvenirs d'acteurs, et même parfois des souvenirs de mes propres films ou de mes propres livres qui ressurgissent comme ça au hasard d'une rue ou d'un endroit ou d'un visage. Donc voilà, c'est des cristaux de temps que je déploie en quelque sorte et que j'interroge d'une manière quand même assez, assez dense. C'est peut-être ce qui vous a donné l'impression de cette lenteur, c'est-à-dire que même si ça va assez vite, en même temps, cette manière de décomposer l'instant et d'essayer de lui faire rendre sa musique et sa, son mystère intime, son, voilà, cette espèce de temporalité un peu cachée qui n'est pas forcément sensible au premier abord, crée cette impression de lenteur. Ça ne veut pas dire que j'avance lentement dans la ville, mais j'analyse mes sensations et mes réminiscences, mes résurgences, le travail que fait le temps dans mon cerveau au fur et à mesure que je visite tous ces endroits. Alors évidemment, ça va vite, parce que je suis toujours pressé, je suis toujours en retard, comme le lapin de Lewis Carroll, j'ai toujours un métro de retard, il y a toujours un agent immobilier qui attend et puis qui est là à faire les 100 pas parce que je lui dis que j'aurai un quart d'heure de retard, etc. Mais pendant ce temps, quand même, j'analyse un peu ce qui se passe dans ma tête et ces espèces, justement, de parcelles de temps qui se télescopent et qui produisent une poésie particulière. C'est ce que j'appelle le... Enfin, je dis poésie, mais j'ai plutôt envie de parler de musique, parce que je pense qu'on en avait déjà parlé lorsque j'étais venu parler de Souvenir Écran, il y a quelques années. Alors là, c'était pas tout à fait les visites d'appartement, c'était les conférences en province, où j'allais porter la bonne parole du cinéma de répertoire souvent dans des lieux un peu déserts ou un peu mélancoliques. Et il y avait déjà cette dimension un peu sérielle, qui peut aussi m'apparenter au travail de Thomas Clerc, c'est-à-dire de répéter comme ça des visites dont finalement qui finissent par produire un effet de saturation et peut-être en même temps au bout desquelles on attend un déclic. Là, ce sont pas ce sont des visites d'appartements et en même temps des rencontres avec des agents immobiliers ou des notaires. C'est pas tout à fait les mêmes interlocuteurs. Mais il est certain que à travers cette répétition du même type de rencontre du même type, on va dire l'autre.
Du troisième type
Non, justement, d'un seul type.
D'un seul type.
Il y a une recherche de la variation, justement.
Oui, c'est de la variation.
La variation dans la répétition, et tout d'un coup, ce qui musicalement va faire qu'il y a un motif nouveau qui va apparaître, une dissonance, une stridence, un contrepoint, un écho, une fugue. Et c'est pour ça que j'ai organisé le livre, après coup, évidemment, comme une série de mouvements musicaux.
Alors, il y a presto, lento, vivace, largo, coda, 5 termes italiens employés en musique, 5 orchestrations possibles de l'abandon d'un lieu, et aussi des retrouvailles avec deux lieux, 5 mouvements différents. Est-ce que votre regard aussi de scénariste, d'homme du cinéma, parce que j'ai l'impression que certaines scènes, vous les passez au ralenti aussi, c'est peut-être ça qui m'a donné cette idée, ou en accéléré, c'est-à-dire que vous jouez, quand on revoit un film, on peut passer en accéléré, en ralenti, il y a des travelling, il y a du fondu enchaîné, est-ce que la... ce qui est aussi votre métier, vous avez un côté de votre vie
dans le cinéma. J'ai un pied dans le cinéma.
Vous avez un pied dans le cinéma. Est-ce que ça a une influence dans votre écriture, à votre avis, Noël Herp?
J'ai pas l'impression que c'en est tellement sur le moment de l'écriture. Pour moi, le travail littéraire convoque une autre dimension que le travail cinématographique, quelque chose de plus intérieur, de plus lié à l'inconscient. Il y a une dimension de construction dans le travail de scénario qui d'ailleurs me rebute quelque peu. Par contre, ce qui est vrai, c'est que après coup, il y a tout ce travail de montage, justement, qui s'apparenterait au fond au travail que fait un documentariste avec ses rushs. J'arrive avec des rushs qui sont des pages de mon journal intime, elles sont assez nombreuses, trop nombreuses, et puis je coupe, je découpe, je retricote, je mets des titres. On peut pas imaginer à quel point... mais ça, c'est ce que j'ai découvert en faisant du montage. C'est important de sacrifier, de savoir sacrifier. Quand on fait un film, on a envie de tout garder, et on s'aperçoit en fait que plus on avance dans le travail de cinéma, plus le fait de sacrifier certains plans ou certaines séquences auxquelles on tenait beaucoup permet au film de gagner un rythme. Bon, et là, je me suis rendu compte de ça très fortement sur ce livre, que là, j'avais fait 47 visites. Et au départ, je les avais mises toutes. Et je racontais toutes les visites, et je racontais même le déménagement. justement. Mmh. C'est-à-dire, comment, avec mon artisan marocain, on va, de manière complètement foireuse, mmh. le matin, avec
les
un
cartons,
camion,
voilà.
Un, un étudiant qui nous aide, etc., parce qu'on l'a, on l'a recruté, etc., mais il a qu'une heure pour nous aider, etc. Bon, tout ça, je raconte. Et puis, évidemment, à chaque fois que je relisais le manuscrit, je sentais qu'il y avait des ventres mous, qu'il y avait, et le seul fait de couper deux ou trois visites ou deux ou trois moments a permis au manuscrit de trouver sa forme et au récit de trouver son rythme.
Donc, vous sculptez, hein, en quelque sorte, vous aimez bien ce travail d'écriture, de réécriture, de construction du récit, parce qu'effectivement, c'est peut-être ça qui me donne l'idée, la sensation qu'il faut prendre son temps quand on vous lit. C'est-à-dire des stratifications de scènes qui sont d'abord aussi très visuelles, hein, c'est très très visuel, et il y a beaucoup d'arrêts sur image. Voilà, c'est ce que c'est un peu la sensation que j'ai.
Oui, c'est possible. Mais je crois aussi que ça tient au fait que chaque chapitre a un rythme différent. C'est-à-dire que c'est pas un livre linéaire. Il y a pas un début, un milieu, une fin. Il y a un côté circulaire. Et en même temps, je pense que, enfin, ça m'a frappé en le relisant. Chaque chapitre raconte une histoire différente, une manière de déplacer le curseur, de déplacer le centre de gravité, une manière de travailler le rythme autrement, de regarder autrement mon rapport au monde, de déplacer mon rapport au monde. Et quand vous parliez évidemment du lien entre je déménage, je change d'appartement et je déménage mentalement, bon, bien sûr, il est présent, je crois, dans tout le corps du livre, c'est-à-dire cette manière de déménager sa propre place à l'intérieur du monde pour arriver enfin à trouver une place qu'on trouve jamais, et Dieu merci d'ailleurs, parce que si on l'a trouvé, on serait mort.
Alors, Je déménage, ça c'est un titre que vous avez voulu, c'est un titre actif, enfin Je déménage, c'est pas, voilà, ça aurait pu être un autre titre, ça aurait pu être le déménagement, enfin un autre titre, ça vous l'avez choisi ce titre, c'est vraiment...
Oui, d'ailleurs je regrettais un peu pour Souvenir Écran, qui n'était pas un très bon titre, j'avais proposé...
Ah si, je trouvais...
Qui avait déjà été pris, j'avais proposé C'est ma tournée, que je trouvais plus drôle, et là je déménage, je crois qu'avec mon éditeur Benoît Viraud, on s'est tout à fait mis d'accord sur ce titre, qui en même temps a comment dire, à l'intérêt, outre ce double sens un peu drôlatique, d'être comme une... Puisque vous parliez de performance, il y a ce côté, une nouvelle aventure de Noël. Ouais. J'ai un peu ce côté personnage de film primitif, hein, on disait Max, Régadin, Onésime, bon bah là, Onésime violoniste, Onésime féministe, bébé horloger, etc. Donc, et j'aime beaucoup cet esprit du cinéma primitif avec ces petits personnages qui revenaient comme ça, sans qu'ils aient de nom de famille. Donc j'aime bien cette idée que c'est une nouvelle aventure de Noël. Les nouvelles aventures de Noël, ouais. Et qu'est-ce qui va lui arriver cette fois-ci, à quoi va se heurter ce Don Quichotte improbable.
Saison 2, alors avec une phrase d'un écrivain un petit peu oublié de Julien Green, je découvris que Paris avait la forme du cerveau humain, et d'ailleurs vous avez une très belle couverture de cartographique.
Absolument, je suis très heureux de cette couverture. La phrase de Julien Green, c'est presque imposé justement comme un signe du lien entre le géographique et le psychanalytique.
Alors il y a cette idée dans votre livre Noël Herp d'habiter chaque moment de votre vie, je trouve. Chacune des scènes que vous démultipliez pour inspirer un court-métrage. Alors, je vais vous lire un petit peu. On bouge dans un appartement comme dans un film, il y a des plans, des inserts, des profondeurs de champ, ce long couloir carrelé de céramique à travers quoi l'on voit la chambre depuis le salon, il produit une perspective qui est du style. Les fenêtres allumées le soir quand on prend un verre dans la cour, c'est encore une atmosphère de cinéma, cela m'évoque ces verres de mon père que j'ai retrouvé l'autre jour sur un de ses cahiers de jeune homme. Je marche à pas lents en moi-même, ouvrant des portes et m'appelant, parlant aux bêtes et aux gens, mais je ne trouve ni joie ni haine. Ils annoncent la mélancolie qui est la mienne, cherchant dans les ruines d'un décor à se définir. C'est assez beau. Je dirais presque aussi que ce livre Je déménage, déjà vous parliez de votre père dans le livre Son pivot aussi.
Oui, dans quasiment tous mes livres en fait.
Oui. Et c'est un portrait en creux de votre père et aussi en positif de l'autre côté de votre mère. Là, votre mère apparaît, elle apparaît bien. Donc c'est marrant parce que votre mère apparaît dans la vie, mais il y a un portrait sous-jacent encore de votre père qui apparaît là. Voilà, c'est à la fois la recherche aussi de vos vies passées, comme souvent dans les livres d'ailleurs.
Oui, alors si je voulais rester sur le terrain de la psychanalyse, j'opposerais le côté obsessionnel de mon père qui, j'en parle un peu dans le livre, qui, lorsque par exemple il s'agissait de chercher une place sur la plage, on allait au Sainte-Marie-de-la-Mer en Camargue, ouais. Et il n'y avait jamais de place qui lui convenait, donc il fallait toujours changer de place, ah. Ce qui est vraiment le propre de l'obsessionnel. Ma mère, au contraire, même si elle n'aime pas que je lui applique ce terme, il y a quelque chose de plus hystérique dans le fait, à mon avis, de choisir d'emblée le premier endroit, sans se poser de questions. Bon, moi je pense que je suis un peu entre les deux, mais finalement ce que j'ai en commun avec eux, c'est sans doute effectivement ce côté mélancolique, ce côté solitaire, ce côté éternel célibataire ou orphelin plus exactement en fait, orphelin d'une histoire qui n'aura pas été et d'une quelque chose qu'on rêve, qu'on regrette, sans même l'avoir connu, d'une sorte d'un décor intérieur qui s'effondre au fur et à mesure qu'on essaie de le reconstruire. Alors il y a une contradiction dans le livre entre cette idée du décor qu'on recherche en vain, c'est-à-dire une idée de théâtre,
oui.
Ou de cinéma, en tout cas une idée de spectacle, et puis l'écriture littéraire qui vient un peu défaire tout ça. Et j'aime bien me situer un peu entre ces deux pôles, de la volonté de se donner en spectacle, de se réduire ou de se résumer dans le spectacle, de s'évanouir dans le décor, et en même temps de se ressaisir par l'écriture.
Oui, tant bien que mal, vous dites, je m'emploie à dresser mon propre échafaudage, celui du livre à écrire, dont ce pourrait être justement le sujet. Après, vous parlez l'espèce de lien fragile que j'essaie de construire pour faire tenir ensemble mes chimères et sans cesse rompues avec les coups du monde extérieur. Donc il y a dedans, dehors, toujours. C'est-à-dire, on avance.
Oui.
Mais c'est un livre très. Il y a une douce mélancolie, mais ce n'est pas. Ce n'est pas triste.
Je crois pas, non. J'espère que le livre est drôle par ailleurs. Je pense que c'est pas incompatible. Ce que vous dites sur le c'est intéressant cette idée du lien, c'est-à-dire c'est aussi la recherche de quelque chose qui fasse un lien narratif, finalement quelque chose qui fasse histoire et qui fasse récit et ce lien, je le trouve jamais tout à fait. C'est-à-dire j'essaie en permanence d'être dans un storytelling au sein duquel je me sens bien et je me sens en lien. Justement, avec des éléments qui font sens ou qui font signe, et puis ça marche jamais. Mais cette reconstruction permanente du récit est en même temps quelque chose de dynamique.
Ben, on pense aussi, alors, faut dire que le point de départ de votre livre, d'OLR, c'est vraiment le côté romanesque aussi des petites annonces. Aussi.
Oui.
C'est surtout ça. On part de ça, c'est-à-dire, on part d'un rêve, on part d'une théorie et on passe à la pratique et vous n'en finissez pas de passer de la théorie à la pratique, du lieu rêvé imaginé au lieu qui va être le vôtre, au lieu où vous allez vivre ou qui va être votre seconde peau. Et ça on l'a tous vécu, tous ceux qui font des recherches, et ça j'ai bien aimé parce que c'est le propre aussi de littéraire, on est à fleur de vie.
Oui, la petite annonce, c'est vraiment un sujet de roman, de possible roman. J'aurais pu faire un livre semblable avec les annonces matrimoniales, mais ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. J'aurais adoré, d'ailleurs, c'est un sujet que j'aurais vraiment aimé traiter.
Bien.
Bon, aujourd'hui, à l'époque de Grindr et autres applications de rencontres, c'est moins romanesque. Donc j'ai essayé de retrouver un peu cette poésie de la petite annonce, effectivement, puis cette poésie des quartiers, parce que ça amène à aller dans des quartiers de Paris qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, des quartiers qui souvent me renvoient à ma jeunesse. Je suis revenu au quartier latin qui est pour moi un quartier merveilleusement anachronique. Tout d'un coup, je découvre des endroits où j'aurais jamais mis les pieds, à la Butte aux Cailles notamment. Bon. C'est vrai que j'ai une grande... une grande curiosité de cette... là, c'est une forme d'envers du décor. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on regarde des photos, on se met à y croire sur la foi d'un petit élément, d'une chaise posée dans la cour ou d'un petit arbrisseau comme ça qui s'agite derrière la fenêtre. Et puis, on se met à y croire. Et ce processus d'aller à la rencontre de son rêve, même s'il débouche sur une désillusion, est quand même un mouvement poétique et qui pour moi est source d'écriture.
Ben vous, ce qui vous intéresse, Noël Herb, c'est le trajet.
Le trajet, voilà. Ah,
le travelling, le trajet, c'est-à-dire d'aller d'une vie à l'autre, d'un genre aussi à l'autre, c'est-à-dire de bifurquer jusqu'au bout de son identité et en la changeant. Enfin,
oui, c'est ça. Tout, comment dire. Ça va dans tous les sens, parce que faudrait pas croire que c'est forcément systématiquement la petite annonce utopique, et puis bon, bah, on découvre que c'est moche et que ça correspond pas du tout aux photos. Bon, ça serait un peu lassant à la longue. Je pense qu'il y a, toutes autres formes de trajet, de mouvement, de découverte. Puis il y a aussi des moments où la rencontre avec le premier contact avec l'agent immobilier n'est pas bon. Parfois vous avez des agents immobiliers qui font tout pour vous dissuader, même au téléphone, puis vous y allez quand même. Une première rencontre, c'est ce que je raconte notamment avec un agent immobilier qui m'emmène voir dans un premier temps un endroit qui me plaît pas beaucoup, qui me balance un peu sa rhétorique, qui me fait du charme quand même un peu, qui m'apprivoise, parce que c'est vrai que je suis plutôt méfiant vis-à-vis de cette engeance, a priori. Et puis je découvre un appartement pour lequel j'ai pas eu tout à fait un coup de foudre, mais qui va quand même devenir mon appartement actuel. Donc voilà, il y a aussi des bonnes surprises.
Bah heureusement, on va faire une pause musicale, ça tombe bien, bonne surprise. On essaye d'être dans les temps des pauses musicales.
Ça y est, on va déménager. Je redoutais ça depuis longtemps. On va même quitter le quartier et mon école, évidemment. Et moi j'avais pourtant bien dit aux parents que je partirais pas. Mais ils ont vraiment fait comme si j'étais pas là. Voilà, il y a des cartons partout. Je ne sais plus du tout où et quoi. Mes livres, mes puzzles, mon doudou. Même le hamster, je le trouve pas. Si j'étais restée sans bouger, il m'aurait emballée aussi. Avec l'électroménager ou le tapis. Je veux pas partir. Je veux rien changer. Vérifie tout dans le salon. Et puisqu'ils ont pris le canapé, elle va s'asseoir sur un carton. Mais comme il n'y a rien dedans, elle s'affale en poussant un cri. Le parquet est dur maintenant qu'il n'y a plus le tapis. Les déménageurs ont cassé le vase de la tante de papa. Il devient très très énervé quand maman dit bon débarras. Ils se mettent à se disputer, à se traiter de tous les noms. Ça me donne presque envie de me cacher dans un carton. Je vous l'avais dit. Dire adieu à ma chambre. Quand je pense qu'un autre que moi va dormir là, vraiment j'en tremble. Je voudrais mettre du poil à gratter et même laisser des pièges à loups. Comme ça, ça lui ôtera l'idée de vivre chez nous. Quelques mois plus tard, dans le nouvel appartement, dans ma chambre, il y a tout mon bazar, et je suis chez moi maintenant. Je me suis fait de nouveaux copains, et mon école est super chouette. est déjà loin, faut pas que je regrette. On est parti, ça fait du bien.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Alors là, vous venez d'écouter Je déménage, c'est chanté par Sophie Forte, voilà. C'est un titre qui a été sélectionné par Flo Descailloux, donc voilà, je fais la transmission. Et c'est tout à fait d'actualité, puisque nous parlons de Je déménage avec Noël Herpe. Je déménage, c'est un très beau récit qui vient de paraître aux éditions Le Nouvel Attila, vous savez tout. Noël Herpe, j'ai l'impression, en vous lisant, il y a beaucoup de fenêtres, voilà ce que vous écrivez. J'aime pourtant ces fenêtres qui s'ouvrent sur d'autres vies, ces rêveries qui se relancent à chaque quartier que j'arpente en imagination. La recherche d'appartements correspond à une structure de mon esprit. Donc c'est un peu fenêtre sur cour, parfois. Vous aimez bien quand vous visitez un appartement, ben, c'est les fenêtres, bien sûr, savoir le point de vue, chercher le bon point de vue.
Oui, et puis découvrir aussi, c'est comme le démon Asmodée qui soulevait le toit des maisons de Madrid. C'est vraiment, bah voilà, regarder un peu ce qui se passe chez les gens, c'est toujours intéressant. Voilà, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que le mobilier, même quand les gens sont pas là d'ailleurs, hein, de voir un peu une sorte de typologie du bobo ou du bourgeois ou du petit bourgeois. Et donc ça me, voilà, il y a le voyeurisme, quand même une. Le voyeurisme est quand même la première qualité ou le premier défaut de l'écrivain.
Oui, alors d'autant plus que vous habitiez avant dans un lieu vitrine, j'allais dire. Oui, donc si vous passez de la vitrine après à chercher un autre lieu où vous. Alors voilà la première visite d'ailleurs. J'ai presque décidé que ce serait cet endroit-là et pas un autre. Superstition de la première visite du quartier où elle s'affiche, Alexandre Dumas, où j'ai vécu il y a quelques années le bonheur d'un logement de fortune transitoire. De l'adresse surtout, qui résonne à la manière d'un coup de dé surréaliste. 7 rue Monte Cristo. Donc rien que l'adresse, on est dans le roman, on est dans le romanesque.
Oui, bien sûr, parce que les signes comptent beaucoup. Le chiffre 7, l'évocation d'Alexandre Dumas, etc. Donc il y a en plus c'est dans le quartier Alexandre Dumas que j'ai visité cet appartement qui était calamiteux, mais les annonces donnent l'impression que. Et donc il y a en effet toute une. Que quand on est comme beaucoup d'êtres humains en proie à l'incertitude du choix, à l'angoisse du choix, qui est l'angoisse la mieux partagée, le signe donne l'illusion d'arrêter la prolifération des possibles.
Oui.
C'est-à-dire que tout d'un coup, on se fie au signe de manière religieuse en se disant c'est le signe qui va décider à ma place. C'est le hasard, c'est le destin, c'est le fatum qui vont décider à ma place. Dieu merci, ça marche jamais. Parce que sinon, justement, il n'y aurait pas de livre. Donc en permanence, je suis obligé. C'est-à-dire, encore une fois, je voudrais m'abandonner à un destin qui décide à ma place. Et comme je disais, m'évanouir dans le décor, mais il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas possible, donc je suis obligé de redevenir moi-même et de relancer ma subjectivité et de faire preuve et d'affirmer mon désir. Et pourtant, je ne sais pas ce que c'est que mon désir. Je n'arrive pas à le définir. Donc c'est un dilemme permanent parce que je suis en permanence acculé à cette nécessité d'affirmer mon désir alors que j'en suis incapable.
Donc c'est une recherche de vous-même à chaque fois.
Voilà, c'est ça, c'est une affirmation impossible de moi-même et pourtant toujours nécessaire.
Toujours nécessaire. À chaque quartier exploré, je m'invente une storytelling, comme disent les chroniqueurs politiques, une structure romanesque qui rendrait un sens à ma vie. La tenancière d'un institut de beauté me regarde passer devant sa vitrine, se demandant ce que veut ce type qui parle seul. Donc c'est vrai que vous arpentez la ville, vous questionnez la ville, vous questionnez ses adresses. place. Et oui. il y a des jeux de miroirs partout. À travers la vitre du bus, je vois défiler la banlieue que j'aime, celle qui n'est qu'une image où l'on s'évanouit en espace.
Ben voilà, c'est ça, l'image, c'est tellement rassurant de regarder la banlieue à travers les vitres, parce que bon, ben, ça passe comme un film. On a envie de disparaître, de s'y fondre, mais on est bien obligé à un certain moment de s'affirmer comme sujet, et c'est ça qui est le plus angoissant. C'est à peu près la même chose que dans la rencontre amoureuse. Hein. Bon, d'ailleurs, je raconte...
Saurais-tu être aussi les petites annonces amoureuses.
Bien sûr,
voilà.
Oui. Comme je disais tout à l'heure, ça aurait été un beau sujet, mais si justement les petites annonces existaient encore. Mais j'évoque à plusieurs reprises dans le livre, là aussi, des hésitations que je peux avoir face à des rencontres amoureuses où j'ai cette difficulté d'affirmer mon désir et où je préfère laisser passer la rencontre. Et peut-être aussi... rester. Alors bon, c'est évidemment une forme d'incapacité de choisir, mais c'est aussi un désir de prolonger la rêverie, qui est vraiment le stade adolescent par excellence. La rêverie est peut-être pour moi le stade le plus cher de la conscience. Mmh. Hein, quelque chose qui fait qu'on regarde passer des êtres... voilà, qu'on aimerait vaguement, avec qui on aimerait vaguement avoir une histoire d'amour, mais on fera rien pour ça. De même qu'on laisse passer des appartements et on regarde à travers la vitre des possibilités d'histoire qui n'auront jamais lieu. Et c'est un stade délicieux, en fait, et hautement littéraire. Je pense que c'est sans doute ce mélange d'angoisse du choix et du goût de la rêverie qui m'ont fait tellement aimer Romer. Romer est vraiment le cinéaste de ça. Quand vous prenez par exemple un film comme Les Nuits de la Pleine Lune, où justement, oui, qui est aussi une histoire de déménagement, puisque le personnage de Pascal Augier habite avec un garçon, mais elle va prendre un appartement en ville pour pouvoir en quelque sorte regarder, il y a déjà ce thème du voyeurisme, regarder de loin comment, si son mec lui est fidèle ou pas. Et en même temps, il y a ce désir de se mettre en position de rêverie par rapport à sa vie, de s'extraire de sa vie pour regarder sa vie en tant que spectateur ou spectatrice. Et je me reconnais beaucoup dans ce positionnement, dans ce désir d'être à la fois dedans et dehors.
Bah, à la fois acteur et spectateur. Vous passez on est à la fois, et le lecteur qui vous suit est à la fois acteur et spectateur de vos aventures. Puis alors, ce qui est, c'est le récit de la désillusion aussi, de la déconvenue. Alors, quand vous tombez je parlais tout à l'heure de la théorie, la réalité, spacieuse sur les photos, la pièce s'est amenuisée comme un conte d'Edgar Poe. Rien à quoi accrocher mes livres, parce qu'en fait, ce qui vous motive, c'est un lieu d'écriture, et voilà la question lancinante, où pourrais-je en ces lieux installer ma bibliothèque ? Et c'est vrai, quand on a beaucoup de livres, on vit avec ses livres, ou avec ses... avant, il y avait les cassettes vidéo, enfin, tous les trucs. Enfin, on vit avec toute sa mémoire vive, et où mettre tous ces livres, donc qui sont avec vous. Et à chaque fois, vous posez la question. Ces futurs locataires, il faut qu'ils soient là avec vous.
Ben, je dirais qu'il y a deux problèmes majeurs dans mon cas. Il y a celui de la bibliothèque. En effet, les agents immobiliers ne comprennent pas ça, parce que la plupart des gens qui font visiter ont une cinquantaine de livres. Mais des gens comme vous et moi, on en a des milliers. Donc c'est quand même très compliqué. Ouais. Et puis l'autre problème, c'est le chat. Quand même que le chat ait son espace.
J'avais oublié.
Et si possible, un espace extérieur. Parce que pour moi, c'est très important que le chat puisse remplir sa mission de prédateur et soit heureux, ne soit pas enfermé dans un appartement toute la journée. Donc ça, c'est quand même très important. Et ça a été important dans le choix final que j'ai fait.
Alors, vous dites, ce qui m'importe, ce sont les innombrables livres dont je ne saurais me défaire. Ils sont ma famille et mon mobilier. Après, il y a des formules. Ça, vous avez vraiment le sens de la formule. Vous parlez... Parce que ça... C'est à la fois une visite, bien sûr, vous cherchez votre lieu, votre nouveau lieu de vie et d'écriture, mais aussi de Paris. C'est-à-dire que vous avez les attrape-touristes, par exemple, les lieux attrape-touristes, ça, vous les loupez pas. Mais ça, c'est bien, parce qu'on partage avec vous, voilà, vous parlez aussi d'un duplex recroquevillé sur lui-même, où chaque centimètre carré est valorisé. C'est vrai que,
oui,
c'est les attrape-nigauds.
Ce dont vous parlez, il y a bien sûr mes formules, mais surtout, j'aime croquer les formules des autres.
Oui.
C'est-à-dire que ce mot de valoriser, par exemple, c'est typique du jargon de l'agent immobilier.
Ah, c'est terrible.
Et puis ça m'intéresse aussi sociologiquement d'évaluer l'évolution du jargon. Il y a 15 ans, par exemple, on parlait encore de campagne à Paris. Il suffisait qu'il y ait trois arbustes dans une cour à poubelles pour qu'on parle de campagne à Paris. Ou alors on parlait de si vous aviez une vue sur un mur aveugle, on vous disait vue imprenable. Et vous aviez envie de répondre, justement, j'ai aucune envie de l'apprendre. Mais aujourd'hui, c'est différent. Alors, on va parler de valoriser, ou alors on va parler de village. Le village fait d'herbe. Ici, nous sommes dans le village Roquette. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les habitants, c'est un peu comme dans un film de Pagnol, vont acheter leur pain ensemble et jouer à la pétanque, mu par une fraternité archaïque. Donc, c'est ce fantasme de retrouver le village à l'intérieur de la ville, qui est quelque chose de complètement bidon, en fait.
Oui, mais
qu'ils essaient de nous servir.
Et là aussi, alors.
Et puis, le pompon, oui. La cerise sur le gâteau, c'est le terme comme une maison. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une petite mezzanine minable posée de guingois pour passer d'un lit à l'autre et ça devient une maison. Ou qu'il y ait un souplex qui fait 2 mètres carrés, ça devient une maison. Oui. Donc ça me fait beaucoup rire.
Et aussi, alors, le coup de la visite virtuelle aussi. J'active l'option de la visite virtuelle qui prend une forme particulièrement sophistiquée. D'autres sites se contentent d'un diaporama avec photos en boucle. En cliquant sur une flèche, j'arpente le salon et sa cuisine américaine. J'ignore si cette expression usée jusqu'à la moelle a encore des adeptes. Je descends l'escalier, j'explore la salle de bain, je remonte à l'étage. D'avance, j'étouffe à l'idée de m'enfermer dans cette boîte.
Oui, c'est ce que les agents immobiliers appelleraient une contre-visite. Ça aussi, c'est une partie de leur jargon. Mais les contre-visites, malheureusement, sont souvent effectivement contre-productives.
Et c'est vrai que c'est le coût de la visite virtuelle.
Oui. Et puis, alors, vous avez aussi des choses qui m'énervent, c'est-à-dire les agences qui refusent. Là, c'était sur le pape. Hein, d'ailleurs, on ne dit plus le particulier à particulier, on dit le pape.
Ah oui, c'est vrai.
C'est plus pop. Oui. Sur le pape, vous êtes obligé de montrer pas de blanche. Il y a certaines annonces où vous êtes obligé de montrer pas de blanche et vous ne pouvez pas visiter si vous n'avez pas déjà produit votre plan de crédit. Vous avez des propriétaires qui refusent de perdre leur temps, etc. Donc ça aussi, ça m'énerve, les fourches codines par lesquelles vous font passer et les propriétaires et les agents et les notaires. Mais enfin, ça, c'est encore une autre histoire.
Vous dites, si j'étais normal, j'établirais une stratégie de recherche à partir de critères clairs, je rationaliserais les alertes, je classerais les annonces qui m'intéressent, au lieu de quoi je laisse le hasard m'envahir. Mais vous l'aimez bien, le hasard? C'est ce qui
bien
fait
sûr,
le sel de
hasard,
la vie.
Le hasard me ressemble, comme dirait Bernanos. Mais oui, je l'aime. Et en même temps, j'ai très peur de me mettre, je crois que c'est présent assez régulièrement dans le livre, j'ai très peur de m'arrêter pour me définir. C'est-à-dire de me regarder, de me dire, voilà, je suis ci, je suis ça, je veux ci, je veux ça. Parce que pour moi, ça va soulever tout un tas d'objections et d'obsessions que j'ai pas envie du tout de convoquer. Et je veux me définir à travers le hasard peut-être, mais surtout à travers le mouvement.
Oui.
Finalement, cette recherche perpétuelle d'appartement me permet de me définir dans le mouvement.
Encore un instant, monsieur le bourreau, le compte à rebours reste une perspective, le flou, et je flotte entre plusieurs tentations. Vous flottez souvent entre plusieurs tentations, Noël Herpe. Vous dites aussi, j'ai la hantise de me retrouver dans un cimetière, loin de la vie. Donc c'est un lieu de vie que vous cherchez, et non pas un lieu d'enfermement. Et c'est vrai que de nombreux lieux que vous visitez vous donnent cette sensation d'étouffement. Alors après, vous parlez aussi ce qui est de l'inconvénient du célibat.
Oui.
Parce que quand... un obstacle majeur traverse mes projets, le célibat. La plupart des gens sont en couple. Ils détiennent un pouvoir d'achat qui leur évite les demi-choix auxquels je suis condamnée. C'est vrai que quand on est seul, pour se décider à acheter un appartement ou une maison, c'est très 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 difficile. Vous avez justement personne pour vous accompagner pour faire cette fameuse contre-visite parfois, où vous avez quelqu'un, mais c'est...
Oui, parce que vous avez des amis, mais qui ont toujours des avis un peu contradictoires, et pas toujours désintéressés. La fois précédente, j'étais en couple, donc la décision s'était faite à deux et même à trois, puisque ma mère y avait été pour quelque chose.
Ah oui, mais votre mère est toujours présente.
Ma mère est toujours présente, elle a peut-être un peu moins voix au chapitre, mais bon. En tout cas, elle est présente, certainement, oui, en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'envie d'un décor et puis l'envie d'être vu de l'extérieur, par exemple, l'envie de faire ce que je pouvais faire rue Saint-Ambroise, c'est-à-dire de... Par exemple, à un moment, je visite un endroit qui est à peu près pareil, au métro Buzinval, une sorte de vitrine, où je me dis, là, je pourrais me donner en spectacle, etc. Et puis, je me rends bien compte que c'est pas possible. Ou alors, je vois des endroits qui me paraissent complètement enfermés, et je cherche un peu quelque chose qui serait un peu entre les deux, c'est-à-dire à la fois un cadre, un décor, et en même temps quelque chose où il y a une échappée. Hein. C'est-à-dire le cadre n'existe que pour pouvoir s'en échapper. Il est là pour vous rassurer, pour vous apaiser, pour vous stabiliser, Mais en même temps, s'il n'y a pas l'idée d'une échappée belle, d'une rêverie possible, d'un ailleurs, à partir de ce cadre, ça ne peut pas marcher. Et c'est vrai que c'est difficile d'arriver à accorder ces contraires, ce que je suis peut-être arrivé à faire avec l'endroit que j'ai choisi. Mais finalement, même cet endroit-là, je ne l'ai pas vraiment choisi. Il s'est imposé à moi un peu par défaut et par élimination.
C'est les lieux qui vous choisissent, mais c'est vrai qu'on sent aussi que vous constatez que vous n'êtes plus le même du tout. Vous dites « La géographie parisienne redevient pour moi une sorte d'aventure mentale où je me retrouve aussi perdue qu'en terre étrangère. » Donc on sent « Je ne peux m'interdire de reproduire une fois de plus le fantasme de spectacle de mon ancien logement. » On sent que vous voulez vraiment vous renouveler
oui.
et plus avoir la même peau, enfin le même habitat. Voilà. Que vous êtes un autre, vous êtes quelqu'un d'autre et que vous avez envie de vivre différemment, y compris en choisissant un lieu qui n'est
oui.
pas... Un lieu où vous donniez au spectacle, enfin, c'est un lieu différent.
Oui,
même quoique.
C'est l'hésitation dont je parlais, mais il y a aussi la question du bruit qui est importante, puisque c'est quand
oui.
même, malgré tout, la raison principale pour laquelle je quitte mon ancien logement. Et donc, je cherche des endroits, un endroit pas peu bruyant, ce qui est vraiment à l'heure absolue, parce qu'aujourd'hui, il n'existe quasiment plus un centimètre carré en France qui ne soit pas bruyant. Je me suis acheté une maison en Corrèze qui est a priori vraiment dans une région très, 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 très peu fréquentée. Je m'aperçois qu'avoir une maison de campagne en Corrèze, vous subissez 10 000 fois plus encore de bruit qu'à Paris.
Mmh.
Donc cette question du bruit revient souvent, les voisins, la possibilité qu'il y ait des enfants qui fassent du bruit. Et en même temps, c'est quelque chose qui par définition est imprévisible. Donc, mais ça rentre quand même sacrément en ligne de compte.
Bah, c'est vrai que la nuisance sonore à Paris, enfin, ça peut être... Surtout quand on écrit, vous écrivez-vous en silence, en musique, Noël?
Ah bah, je suis obligé, de toute façon, là, dans l'endroit que j'habite actuellement, qui est un endroit très agréable, avec donnant sur une cour arborée, avec des oiseaux, etc. Mais enfin, il y a quand même... Étant donné que c'est un vieil immeuble du Marais, c'est très mal isolé, et donc j'entends à peu près tout ce qui se passe chez le voisin du dessous. Donc maintenant, pour écrire, je porte un casque de chantier.
Oui, ça m'est arrivé aussi.
Ce qui est à peu près la seule manière d'éviter le bruit.
Moi, j'ai une cour de récréation, donc j'écris des fois avec un casque de chantier. Bienvenue au club. Mais c'est vrai que c'est...
Mais maintenant, il y a bruit et bruit. Il y a des ouais. bruits, par exemple, les bruits que j'ai actuellement, c'est la voisine qui fait ses gammes au piano.
C'est agréable.
Voilà. Ça va, c'est des bruits quand même plutôt...
De la vie.
Oui, c'est ça. Mais quand c'est le marteau-piqueur, c'est plus pénible.
Vous avez cette phrase, Noël Herbe, mon envie de retraite est contrariée par mon envie d'être là où ça se passe, ma vieillesse par ma jeunesse. Donc vous êtes jeune encore et vous voulez aussi un lieu où il y ait de la vie, ça ne soit pas un lieu...
Je veux tout à la fois, en fait. C'est-à-dire que je veux me retirer du monde, je veux une thébaïde, je veux être au calme, je veux ne pas avoir de bruit, mais en même temps, je veux quand même être là où ça se passe, je veux quand même qu'il y ait des jeunes, je veux qu'il y ait des gens beaux, je veux pas être avec des retraités, je veux être tout à la fois. Et voilà, il y a un moment, bon, bah, c'est pas possible. Donc cette espèce de... Au fond, je pense que c'est peut-être la chose principale qui m'a conduit vers l'écriture, c'est ce sentiment d'être tellement multiple, tellement indéterminé, indéfini, que seule la phrase... Dans son mouvement tâtonnant, me permet de me construire de manière peut-être maladroite et malhabile, mais enfin, j'arrive à me construire peut-être moins à travers ses recherches d'appartement qu'à travers l'écriture qui raconte ses recherches d'appartement.
Ça a été écrit a posteriori ou progressivement, c'est-à-dire les épisodes que nous lisons, est-ce qu'ils ont été écrits petit à petit, c'est-à-dire au fur et à mesure de vos visites ou après, a posteriori?
Tout à fait, c'est en fait c'est un journal en forme de chronique, c'est un journal thématique. C'est-à-dire que tous les matins, j'écrivais ma journée de la veille, je racontais mes visites de la veille de manière assez scrupuleuse. Alors, il est certain qu'il y a des moments où il faut faire attention, parce que faut pas non plus que l'écriture prenne le pas sur l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, quand vous visitez un appartement, vous pensiez à ce que vous allez en écrire le lendemain. Il faut arriver à séparer, en tout cas, les deux espaces. Parce que si vous commencez à mélanger les deux, ça ne marche pas. Il faut que, d'une certaine manière, quand vous écrivez sur ce que vous avez vécu, vous l'ayez quand même vraiment vécu, de manière fraîche, vierge, neuve, et sans être trop conscient de ce que vous alliez en dire.
Bon, on va faire une petite pause musicale et puis nous reprendrons notre visite d'appartement avec Noël Herbe.
Des escaliers sans fin, et des voisins qui crient. Une bête mansarde, minuscule et navrante, sur un triste faubourg, pour le prix d'une rente. Mais j'avais une adresse et j'étais à Paris. J'ai gardé de ce temps le goût des ascenseurs, des foules énervées, des musiques à moteur, du métro aérien et des sens interdits, quand chaque rue semblait la rue de paradis. Ce n'est pas rien de prendre une adresse à Paris. Voilà tant de promesses dans une petite clé, tant d'ambitions qu'on couche dans le lit démeublé, et tant de concessions à la nouvelle patrie. On sait qu'on va paumer cet accent de péquenot, jeter un peu de soi comme miette au moineau, et qu'on va oublier nos serments de province sous une porte cochère de la rue de Belzins. J'ai su quelques adresses de l'amour à Paris, de ces jolies adresses d'où l'on part au matin, heureux comme le soleil se levant à Pantin, sur l'océan figé des vagues de toit gris. Qu'importe si ça ne dure que le temps des lilas, j'ai bien l'âge de dire Montmartre en ce temps-là, et prévenir qui s'endort rue de la fidélité, que le passage du désir est tout juste à côté. Maintenant je suis chez moi, de Mouffetard aux Abbesses, heureuse locataire, sans bail ni préavis, quand Paris fait tourner l'usine à nostalgie. C'est Paris tout entier qui devient mon adresse, un chemin buissonnier par la rue des Écoles, l'été mélancolique du square des Batignolles, devant l'hôtel de ville, le baiser de Doineau et Jean Gabin qui gueule dans la rue Poliveau. De boulevard en place, d'avenue en impasse, 6000 rues et quelques, en voilà une liste, de misères anonymes, de romans égoïstes, de tant de pas perdus que les suivants effacent. Car il vient bien un jour où faut changer d'adresse, un de ces jours où Paris vaut plus vraiment sa messe. On essaye la campagne, on rejoue au loto, on finit la promenade dans la rue du repos.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et vous venez d'écouter Juliette, une adresse à Paris. Une adresse à Paris, Noël Herp. C'est vrai que vous, votre narrateur, puisque ce livre pourrait être aussi un roman, enfin, l'épopée de chercher l'endroit où on va vivre, on va poser ses valises, et peut-être pas définitivement. C'est peut-être ce terme de poser ses valises définitivement qui vous effraie.
Non, j'aime pas, non.
Mais se dire, c'est peut-être ma dernière adresse. Peut-être
c'est ça, oui, oui.
Parce que quand on prend de l'âge, mais là, vous êtes jeune encore, mais quand on prend les années passent et on se dit, oh là là, c'est peut-être que je vais... C'est peut-être ma dernière adresse, ça. Quoique, finalement, il faut du temps aussi pour connaître un quartier.
Oui, mais c'est aussi une façon d'être, c'est-à-dire, justement, préférer être dans cette espèce de flottement et de mouvement perpétuel plutôt que dans une identité stable, au fond. Parce que ça, c'est, pour moi, ce serait pire que la mort. Je me souviens de moments de ma vie où j'étais justement un peu entre deux appartements. Par exemple, quand j'avais emménagé dans un studio rue Montorgueil, et puis on faisait des travaux, donc j'avais habité chez une amie de ma mère, rue de Rennes, et j'ai un souvenir de bonheur incroyable de cette période, parce que j'étais entre deux endroits. J'ai revécu ça Quand j'ai acheté la rue Saint-Ambroise, je me suis retrouvé aussi dans un petit Airbnb pendant 2-3 mois. Mais c'est incroyable, parce que j'étais content, parce que j'étais pas chez moi. J'étais, c'est comme si j'étais tous les jours à l'hôtel. Et voilà, je descendais au café le matin, je découvrais un quartier que je connaissais pas. Et j'adore ça, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien les tournées en province, parce que ça me permet de découvrir des endroits différents. Et cet état, comme ça, entre deux eaux, entre deux lieux, entre deux jeux, si j'ose dire, me convient tout à fait. Dès que la porte se referme, ça commence à ouais. Déconner.
Bah, oui, mais en même temps, vous aimez ces parenthèses. Voilà, on pourrait dire c'est comme des petites pièces de théâtre qui succèdent, etc.
Alors, je dirais plutôt les entractes.
Les entractes, hein, exactement. Mmh. Et il faut dire que l'agent immobilier, il y a quand même quelques personnages qu'il faut que vous nous présentiez peut-être, mais c'est vrai vous avez une série de personnages d'agents immobiliers, entre celle qui est omniprésente avec les SMS, parce qu'il y a tout un truc avec les SMS, là vous êtes poursuivi par certains, il y a tout ce qu'il y a autour de l'annonce en fait, il y a le harcèlement.
Il y a toute forme de stratégie, il y a les gens qui vous font subir des questionnaires extrêmement précis, il y a ceux qui sont beaucoup plus discrets, il y a ceux qui essaient de vous dissuader, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur temps, c'est plutôt des jeunes ça d'ailleurs, puis vous avez pas mal de jeunes, hein, de jeunes apprentis comédiens qui vraiment font ça, qui vous sortent leurs fiches, mais vraiment on sent qu'ils en ont vraiment rien à faire, mais que bon, bah, ils font leur job, et puis vous avez les agentes à l'ancienne, dont
ça.
Celle qui m'a vendu l'appartement que j'occupe aujourd'hui, très sympathique d'ailleurs, mais avec tout un discours sur les passoires thermiques, ah mon Dieu, c'est terrible, ces nouvelles législations punitives, on peut plus rien vendre, on peut plus rien faire, etc. Donc j'aime bien à chaque fois, à la fois abonder dans le sens de mon interlocuteur et puis regarder du coin de l'œil la scène que je suis en train de jouer et disons un certain type de rhétorique qu'on a par rapport à certains sujets dont j'essaie d'être jamais tout à fait dupe.
C'est vrai, non, mais vous l'aimez bien cette femme.
Enfin, oui, oui.
Il y a aussi la sympathie qui se passe avec la personne qui va vous vendre un lieu, finalement.
Oui, oui, je crois que c'est très important. Il y a eu deux personnalités importantes qui traversent ce livre. C'est la première agente qui a vendu la rue Saint-Ambroise. Alors ça, je lui en ai beaucoup voulu parce qu'elle a vendu en 5 secs. Elle a vendu très vite.
Voilà.
Et
ouais.
Moi, qui en fait n'étais pas tout à fait décidé à vendre, elle m'a un peu pris au piège de mon indécision. Mmh. Donc ça, je l'ai détesté. Et puis finalement, je me suis rendu compte après postérieur qu'elle avait quand même bien bossé. Puisqu'elle est arrivée à vendre très bien un endroit qui était quand même pas évident. Et puis la deuxième, qui a quelque chose d'un personnage d'américaine comme ça un peu fantasque, enfin c'est l'image qu'elle donne, et qui a été très très habile et très qui m'a à la fois mis la pression mais en douceur. Je dis à un moment, je la compare à une Park vigilante qui attend le moment de trancher le fil du destin et qui attend son heure. Je l'ai détestée elle aussi à certains moments parce que elle me demandait des garanties, des ceci, des cela, et j'aime pas me sentir piégé. Je dirais que l'une et l'autre, elles ont su me prendre au piège de mes contradictions et m'amener et me forcer presque un peu malgré moi à prendre des décisions. Donc,
bravo,
chapeau.
Et puis il y a les phrases aussi de vos amis, les phrases de Jean-Claude par exemple me reviennent. Dans un lieu comme ça, tu peux facilement tourner en rond. C'est un lieu fait pour quelqu'un qui a une énorme vie intérieure. Donc il y a des phrases comme ça, de commentaires, sans oublier votre mère, mais enfin il y a des phrases comme ça qui vous...
Qui me hante, quoi. Je me réveille la nuit en y pensant. Puis il y a des signes aussi, parce que quand je visite cet appartement de la rue Saint-Paul, Jean-Claude, justement, cet ami, m'emmène voir une rue qui est juste à côté, qui est une rue qui mène vers une entrée latérale sur l'église Saint-Paul. Et je me souviens à ce moment-là que j'ai parlé de cet endroit dans un de mes autres livres, Souvenir écran. Donc c'est aussi des signes comme ça qui tout d'un coup me renvoient à mon expérience passée. Ce que vous disent les amis, bon, on y accorde plus ou moins d'importance. Les conseils sont faits pour pas être suivis, de toute façon. Et malgré tout, même si on croit qu'on décide pas, on décide quand même.
Ouais, oui. Alors aussi, mon éternelle adolescence se complète dans les situations provisoires, les lieux qu'on n'habite pas, sinon pour dormir et écrire. Donc ce provisoire qui dure, c'est ce que vous avez dit. Disiez tout à l'heure.
Ça nous renvoie encore une fois à l'adolescence.
Ouais. Et puis aussi, qui dit déménagement dit l'art du tri. Hein,
Ah oui, alors ça, c'est toute une partie du livre qui intervient.
C'est important. Ça intervient en dernier lieu. C'est vrai que je saute peut-être des étapes. Enfin, c'est vrai. Avant ça, par exemple, aussi, Vous redécouvrez d'ailleurs en faisant le tri des livres, certains livres, que tous ces ouvrages qu'on m'a donnés, ces éditions de la Pléiade, où je pioche de ci, de là, me remettant à l'arbitraire. Pourquoi ai-je laissé en plan Anna Karénine ? Pourquoi m'obstiner à lire Anna ? Je rouvre David Copperfield, négligé depuis des mois, de sorte que je ne reconnais plus les personnages. Il faut quand même en continuer la lecture, résister à l'éternelle faiblesse de chercher d'un livre à l'autre une place plus fraîche sur l'oreiller. Donc c'est en même temps, ça vous remet en question et vous aimez bien ça.
Oui, parce que c'est aussi une facilité de vouloir toujours se dire qu'ailleurs l'herbe est plus verte et que ça ira mieux demain ou ailleurs. Et il faut aussi être capable de mener, c'est peut-être là, d'arriver à trouver une continuité. Hein, dans toute cette dispersion. C'est peut-être la difficulté que j'ai. Mais voilà, je pense qu'en écrivant des livres, j'arrive à... j'essaye de trouver un fil rouge dans ce labyrinthe.
C'est-à-dire, ce lieu devra être un centre, un foyer secret, à partir duquel je pourrais m'élancer ailleurs. Donc c'est comme une page blanche, ce nouveau lieu.
Oui. Et toujours cette idée du... C'est pour ça que vous aviez raison d'insister sur la fenêtre, parce que la fenêtre, c'est ce qui permet de voir chez les autres, mais c'est aussi ce qui permet de voir ailleurs. Donc, l'endroit que j'ai choisi est un endroit avec des très grandes fenêtres et un vrai espace pour la rêverie. Donc je suis arrivé, j'ai peu regardé l'appartement, mais je me suis planté devant les fenêtres et j'ai regardé. C'est pas que la vue soit extraordinaire, mais il y a un espace de rêverie.
Il y a un espace de rêverie. Et puis quand vous sortez dans la rue, alors bon, vous n'en perdez pas votre sens de l'humour et de l'observation. Je veux dire aux auditeurs, par exemple, voilà, il y a des jeux de silhouettes. Une femme aux formes exagérément rebondies, moulée dans une robe courte et juchée sur des talons vertigineux, elle manque de se casser la figure avant de rejoindre une boutique où elle travaille. Elle vend des gaines amassissantes. Assez rigolo parce que voyez, vous amusez à prendre au vol comme ça entre deux visites. Entre deux escapades immobilières, si on peut dire, il y a des croquis, il y a des silhouettes qui vous font passer. Voilà, des...
Vous savez, je suis avant tout un diariste. Hein. Voilà, je suis un grand admirateur de Léoto et j'aime croquer, quoi. J'aime croquer le quotidien. Ce thématique du déménagement me donne un prétexte, mais au fond, je suis d'abord. Mon idéal, à la limite, ne serait que de publier des volumes de mon journal où je raconterais ce genre de choses. Il se passe tellement de choses dans la journée d'un homme. On rencontre tellement de gens incroyables. Il y a tellement de choses qu'on laisse échapper et qui sont dignes d'être écrites.
Et puis aussi le fait des rencontres dans Paris aussi. Je suis familier de telles expériences comme si je n'étais que regard. L'autre jour, vers Saint-Paul, j'ai identifié à sa silhouette un vénérable historien du cinéma qui ne m'aurait probablement pas reconnu si je m'étais rendu visible. Il y a ce jeu dans Paris où on voit des gens connus ou des gens qu'on a connus dans nos vies, visibles, invisibles, oui. Reconnaissance, être physionomiste ou pas, les gens qui font semblant de ne pas vous voir, ceux que vous allez voir, que vous allez reconnaître tout de suite et qui vont déclencher peut-être une autre rencontre. Et on sent que voilà, c'est le scénario de la vie et vous le... Il y a aussi ça dans votre livre.
Oui, oui. Là, c'est vrai que j'ai souvent ce sentiment d'être un fantôme et de voir les... C'est le côté, justement, le syndrome d'Asmodée, de voir les autres et de n'être pas vu d'eux, d'être pas reconnu, de ne pas imprimer, de ne pas être lisible par les autres. Et comme si j'étais... je flottais comme ça dans un univers qui ne veut pas de moi. Et c'est peut-être une position que je cultive, mais que je ressens assez fortement.
Est-ce que c'est pas aussi tout écrivain aussi qu'a le fait d'écrire ou le fait...
Oui, le fait d'écrire vous met forcément en dehors, bien sûr, oui. Mais je dirais qu'il y a quand même, quand je parle de fantômes, il y a quand même chez moi un certain goût du surnaturel. C'est pas par hasard si j'ai aimé Julien Green, justement, ou Bernanos, ce genre d'écrivain. Il y a quand même un goût de voir derrière les apparences quelque chose d'un peu mystérieux et qui échappe à la rationalité. Je suis pas sûr que tous les écrivains soient comme ça.
Alors, c'est un livre aussi sur la rupture, votre livre d'Oël Herpe. C'est une singularité de ma nature que ces liens rompus, la famille que je n'aurais pu trouver, je la fuis. Donc, le déménagement, c'est la rupture, en fait. Hein. C'est aussi une réflexion là-dessus.
Oui. C'est-à-dire, c'est le paradoxe. Et c'est encore une fois toujours cette question de l'orphelin mélancolique que je suis. Peut-être en hommage à mon père et ma mère, qui ont été tous les deux de précoces orphelins. Je cherche du lien, je cherche un lien avec l'autre, je cherche un lien à faire histoire, je cherche un lien avec un lieu, et en même temps, ce lien, je ne cesse de le défaire, et de le reconstruire autrement. Donc c'est à la fois vouloir resserrer le lien et vouloir le desserrer, c'est un double mouvement permanent.
Ouais.
Et heureusement qu'il y a les deux, parce que si c'était que refaire du lien, ça serait de la nostalgie, ça serait du fétichisme, vouloir reconstruire le passé. Bon, moi je trouve ça personnellement pas très intéressant. Si c'était des liaisons, bon bah ce serait peut-être de la folie. Mais voilà, je pense que je suis un truc effectivement quelque chose de très un goût du passé, c'est certain que je suis quand même très attaché à mon passé, à des références littéraires du passé, et en même temps j'ai toujours plus ou moins besoin de les bazarder, de les liquider et de passer à autre chose.
Je trouve quand même aussi, je pense que vous êtes un homme du départ. Vous êtes souvent dans votre livre là, vous êtes toujours sur le départ.
J'ai pas toujours été comme ça. C'est un peu avec l'âge que et avec la psychanalyse aussi, avec la longue psychanalyse au long cours que j'ai vécu, que peut-être je suis devenu plus un homme de rupture certainement. Mais en même temps, donc c'est le sujet de toute cette dernière partie où je vide les cartons. J'ai cette espèce de plaisir un peu sadique à jeter à la poubelle des photos d'acteurs de la Comédie Française dans une pièce de Mauriac ou de vieilles pièces de la Biche photocopiées quand j'avais 15 ans ou le diplôme de chirurgien dentiste de mon père. Je déchire ça rageusement et en même temps avec une forme de désespoir aussi, mais parce qu'il le faut. C'est la grande ambiguïté de ces moments où on jette, où on trie, où on détruit. C'est-à-dire que très mystérieusement, en détruisant le lien, ces liens minuscules qui vous rattachent au passé, je parle à un moment de Lilliputien qui me ligote, comme Gulliver, j'éprouve presque dans sa fraîcheur le lien que je suis en train de détruire. Je le retrouve vivant au moment même où je le détruis. C'est ça qui est très, très,
alors,
très mystérieux.
Ça rejoint, alors là je vais citer plusieurs de vos phrases, « Pas d'autre choix que de passer outre à marche forcée. En cours de route, des lambeaux de texte m'ont échappé. Seul compte la phrase qui s'avance dans sa fraîcheur. » Voilà ce que vous. C'est pour ça que pour moi, vous êtes quand même un homme toujours sur le départ. Après le tri, alors l'affaire du tri, ça c'est. Jeter est difficile. À chacun de mes déménagements, je m'attaque à cet exercice qui tend à m'alléger. Je me demande si je ne déménage pas pour cette unique raison, me débarrasser magiquement de ce que j'ai décidé de considérer comme une peau morte. Donc c'est une mue, une métamorphose, toujours.
Oui, bien sûr, parce que ça permet à chaque fois de se débarrasser de plein de choses qui vous encombrent et qu'on gardait on ne sait pourquoi.
Le passé n'en finit pas de mourir, les cartons ne se remplissent pas. Après, j'applique une semblable sélection aux photocopies vieilles de 40 ans du journal d'un ami. Je suis brouillé avec lui, je déchire ses états d'âme, seul subsiste au détour de quelques pages les signes que j'ai vécu. Donc il y a un côté, je me heurte au statut du commandeur de ma jeunesse dont je recueillais le plus infime vestige. Ce sont des photocopies à n'en plus finir sur le centenaire de François Mauriac et ses célébrations à Bordeaux. Mais c'est rigolo en même temps.
Moi j'adore ça parce que ça me fait revivre ma jeunesse. Et je revis à la fois tout le désespoir du jeune homme que j'étais qui se cherchait à l'ombre de gloire du passé et en même temps... Un peu de ma jeunesse revit quand même au moment même où je m'en moque.
Ben oui, exactement. Donc il y a l'autodérision, de l'auto.
Je crois que c'est très mélangé chez moi, à la fois la dérision, l'ironie et la mélancolie, et même quand même un soupçon de nostalgie malgré tout. Je crois que tout ça est très intriqué en fait. J'ai du mal finalement. Voilà, encore une fois, j'ai pas envie de choisir. Tout ça est mêlé.
Bon, on va faire une pause musicale. On va voir si vous avez toujours pas envie de choisir. On va voir ce qui nous attend.
Il pleut dans ma chambre, j'écoute la pluie de septembre qui tombe dans mon lit. Le jardin frissonne, toutes les fleurs ont pleuré pour la venue de l'automne et pour la fin de l'été. Mais la pluie fredonne sur un rythme joyeux. Tip et tap, tip top, et tip et tip tip et tip et tip top et tap. Voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson de la pluie. Demain le jour fleurira sur vos lèvres, mon amour, et la pluie qui calme notre fièvre sera loin, très loin, dans la mer, voguant sous le ciel clair.
Demain les bois auront fait leurs toilettes et les toits peints de frais auront tonnerre de fête. Les oiseaux contents de ce shampoing ne se plaindront point. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur. Douce pluie de septembre chantonnaire, moqueur. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons. Et dans la montagne, le vent joue du violon. Tous les chats de gouttière chantent et dansent en rond. Tip-tap, tip-top, tip-tip, 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 tip-tip. Top et top, voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson de la pluie. Il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur. Douce pluie de septembre, chantonnaire, moqueur. Dans toute la campagne poussent de beaux champignons. Et dans la montagne, le vent joue du violon. Voilà ce qu'on entend la nuit, c'est la chanson de la pluie.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, vous avez écouté Charles Trenet. Il pleut dans ma chambre, il y a du swing dans l'air, Noël Herp. C'est vrai qu'on
j'adore
écoute...
Charles Trenet.
Oh, moi aussi, et c'est vrai qu'il y a... une accélération, décélération dans cette chanson qu'on entend aussi dans votre rythme d'écriture, ce dont je parlais tout à l'heure. On appuie sur le bouton pause, on appuie sur le bouton qui accélère, on appuie sur le rétropédalage, etc. Et votre, il y a des avancées, il y a des retours en arrière, il y a ces jeux de caméra, voilà, de stylo caméra, on aurait dit à ce truc, mais il y a ce jeu de stylo caméra.
Et des variations de rythme.
Et des variations de rythme.
Oui, c'est sûr que... Bah, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie de forcer le destin, d'aller vite, d'échapper à ma perpétuelle ratiocination, et puis ça marche pas, donc du coup ça ralentit. Et, en fond, j'ai très peur de j'ai très peur de l'arrêt sur image, en fait. Je crois que c'est la figure qui me fait le plus peur, parce que ça veut dire on peut passer sa vie à ça. Moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune, je passais mon temps à m'analyser, à me regarder dans la glace, etc. Et donc j'ai très peur de cette espèce d'état un peu introspectif qui pourrait ne jamais finir. Donc je me guéris par ce mouvement perpétuel, mais le mouvement connaît des ratés, des bégaiements, des suspens, et voilà. Et c'est toute cette difficulté à avancer qui fait la contradiction de mon écriture.
Est-ce pour ça aussi que vous avez les deux disciplines, cinéma et écriture ?
Oui, je pense que le cinéma, je l'ai aimé justement pour ça, parce que le cinéma m'emportait dans un mouvement dont je n'étais pas maître, et où tout d'un coup, qui suspendait les incertitudes de la subjectivité ou de la conscience, et pour me soumettre à une sorte de rêve éveillé. Hein, quand vous rêvez, ben, vous décidez pas de ce que vous rêvez, le rêve à votre place. Et donc c'est ça, bien sûr, c'est ça que j'ai aimé dans le cinéma, et dans un certain type de cinéaste, comme Bresson par exemple, qui ont cette force de vous imposer des images très fortes, et dont vous êtes en quelque sorte l'otage. L'écriture, ce qui a été fondateur pour moi, enfin, quand j'étais jeune homme, c'était vraiment ce rapport aux images animées. Et j'ai mis du temps à aller vers la littérature et à m'accepter comme écrivain.
Et vous dites aussi, mes journées sont découpées en morceaux de volonté, en morceaux de bravoure, où je force à apparaître ma capacité d'agir. Donc, une initiative chaque jour, enfin, ce déménagement, c'est... Voilà, ce mouvement que vous faites en vous-même, quoi. C'est une sorte de circonvolution en vous-même, et toutes vos journées s'organisent comme ça, dans la quête, dans la recherche, mais qui va au-delà de tout ça, en fait. On sent que il y a une sorte de... Oui, je parlais de nouveau départ, mais un nouveau départ à chaque moment de la journée, c'est-à-dire...
Chaque moment de la journée, parce qu'en fait, c'est aussi mes rituels d'écriture, c'est-à-dire que je travaille plutôt le matin, et en fait, ma manière d'avancer dans l'écriture est rythmée par la prise du thé, c'est-à-dire que tous les deux heures, je prends du thé, donc que ça m'arrive deux ou trois fois dans la matinée, selon l'heure à laquelle je me lève. Et en fait, si j'ai pas écrit au moins tant de feuillets au bout de cette session, ben je suis pas bien, je suis pas content. Donc il y a une sorte d'impératif, des impératifs que je me crée à moi-même. En effet, comme je le dis dans le livre, pour mettre en scène ma capacité d'agir, c'est-à-dire pour comme si j'avais un spectateur qui attend que je fasse une... Voilà, ça nous ramène à l'idée de la performance, que je fasse mon numéro, que je remplisse mon contrat. Et c'est un truc que j'ai trouvé il y a des années pour arriver justement à avancer, ne pas en permanence être empêché par le questionnement, pourquoi faire ci, pourquoi pas faire ça, etc.
Non, c'est l'action. Vous
et qui... voilà, donc je m'oblige à agir à travers des rituels de mise en scène de mon action. Et qui font de moi l'acteur de mon écriture en quelque sorte, parce que qui me force à sortir de moi-même et à avancer malgré moi. Parce que je constate de manière presque fatale que dès que je me mets à réfléchir, ça fout le camp, ça marche pas. La seule chose qui pense chez moi, c'est j'allais dire le stylo, si j'écrivais avec un stylo, c'est le geste de l'écriture. Le geste décide à ma place, le geste pense à ma place. J'ai pas de pensée comme écrivain, j'ai pas de théorie de la littérature, j'ai pas de théorie de ce que je veux écrire, mais je m'aperçois qu'il se passe quelque chose quand j'écris, et c'est ça qui m'intéresse. Donc si je me botte pas le train pour avancer à marche forcée, et ben il se passera rien.
Et aussi vous avez écrit sur le travestissement, vous êtes vous même travesti, ça vous arrive. Mais je parlais tout à l'heure de comme une forme de trajet, c'est-à-dire que vous aimez passer d'un genre à un autre, c'est le cas de le dire, mais c'est l'histoire qui vous, l'effort que vous avez, c'est le chemin que vous allez accomplir d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée, de transformation, de transmutation,
de traverser de mes habitudes aussi,
oui,
c'est-à-dire
voilà.
Tout d'un coup de découvrir en moi quelque chose que j'aurais pas du tout imaginé. Ça qui est merveilleux quand vous écrivez, et moins vous réfléchissez, plus vous vous en rendez compte. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est que vous découvrez tout d'un coup des zones de votre inconscient, des zones de votre imaginaire ou de votre désir que vous auriez absolument pas soupçonné avant d'écrire. Donc ça, c'est un lâcher prise qu'il faut vraiment arriver à garder. C'est pas facile, hein, parce que vous avez toujours la tentation de contrôler, Et c'est vrai que c'est intéressant que vous fassiez ce rapport avec le travestissement, qui est une autre forme de traversée de soi-même, souvent liée d'ailleurs dans mes films à la marche. Hein, je pense à mon film C'est l'homme, qui commence comme ça, où je joue un personnage qui est un peu Noël Herp, un professeur d'université respectable, puis qui tout d'un coup va s'habiller en femme d'une manière complètement aux antipodes de sa personnalité habituelle. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement le fait qu'il s'habille en femme que le fait qu'il marche dans la rue habillé en femme, ça lui permet de mettre à l'épreuve le regard des autres sur lui, la crédibilité de son personnage, et ça va l'amener à une espèce de traversée du décor encore plus radicale. Donc c'est vrai que, oui, c'est pour ça que je me reconnais plus dans ce terme de travesti que j'aime, parce qu'effectivement il implique le trajet, le travail, peut-être même une forme de souffrance, parce que le travail aussi c'est au départ une souffrance.
Oui, c'est aussi une souffrance, oui.
Mais en tout cas, cette idée que...
De mise à l'épreuve.
Comment dire ? Cette idée que l'identité n'est pas stable, je suis pas homme ou femme, je me reconnais pas, je me reconnais dans... Disons que je veux bien accepter cette convention d'être homme, au départ, si elle me permet de découvrir en moi la dimension féminine, qui est la dimension d'altérité. J'ai besoin de ce chemin vers l'altérité.
Oui, c'est pour ça que je parlais d'un chemin vers l'inattendu. Là, vous allez nous lire peut-être un texte, je pense, pour que les auditeurs entendent. J'ai lu quelques petits extraits de votre écriture, Noël Herp, mais peut-être nous lire un extrait de votre livre, comme ça nous allons faire un autre chemin vers votre écriture.
Alors là, je ne sais pas si c'est un chemin, c'est plutôt un moment où je suis un peu du surplace.
Exactement.
Je suis assis toute la journée, vous savez ce que c'est, vous savez comme moi ce que c'est quand on est dans un salon littéraire,
terrible.
On attend, on est là, on attend que les gens viennent vous demander de signer votre livre, ça n'arrive pas toujours. Donc, surtout si vous êtes assis, comme c'était mon cas ce jour-là, à côté de quelqu'un de beaucoup plus connu.
Ah oui, ça arrive aussi.
Alors voilà ce que je raconte. Pendant que ça s'effondre en coulisses, je prétends briller sur scène. Je passe à la radio, j'échoue dans un salon, sur la grande place d'Issy-les-Moulineaux, où les écrivains signent leurs ouvrages. On m'a coincé entre un écrivain américain à succès, auprès de qui se presse une cohorte interminable d'admirateurs, et un chroniqueur de plateau télé, à qui les gens viennent se confier comme à un prêtre. Son livre portant sur le décès de ses deux parents, il n'est pas de badaud qui n'y aille de sa larme ou de son récit concernant un deuil personnel. Il les écoute poliment, fait semblant de s'intéresser, au cas par cas, à leur histoire. Une femme déboule, prête à en découdre, à cracher ses rancœurs. Elle sort, dit-elle, d'une relation toxique avec un pervers narcissique qui est, Dieu merci, en garde à vue. Elle voudrait qu'un écrivain connu raconte l'enfer qu'elle a subi, mais craint d'en dire trop de peur qu'on ne lui pique l'idée. Désolé, dit-il, il ne peut rien pour elle. Elle tourne les talons, sans même le saluer, enfuit comme elle est venue. D'autres personnes, tout attraquent, l'interpellent et s'éloignent, le traitant aussi familièrement que s'il faisait partie de leur vie. Me voici une fois de plus derrière une glace sans teint. Des moments viennent me tirer de ma solitude. La programmatrice du salon m'interviewe et nos voix, grossies par le micro, se perdent dans le brouhaha général. Un monsieur vient me faire signer mon livre. Il a lu tout ce que j'ai écrit. Il travaille à la médiathèque, non loin d'ici. Je feins de m'intéresser à ce que publient mes collègues pour nourrir des sujets de conversation. Le chroniqueur télé s'en va avant la fin. Il a vendu tous ses volumes. Une dame arrive in extremis, l'air amoureux, exagérément réjoui, pour lui faire signer l'exemplaire de démonstration. À la première occasion, je déménage.
Voilà. Et vous déménagez souvent dans votre livre. C'est pour ça que je parle de départ, de scène de vie où qu'on traverse la rue. Enfin, vous, à chaque fois, c'est des petites histoires qui se mêlent.
Oui, oui, oui.
Et c'est pas que le déménagement, c'est toute votre vie qui est comme un puzzle. Finalement.
Mosaïque, oui, oui.
Une mosaïque, un puzzle de scène de vie. Votre rapport avec les lecteurs, il y a eu des réactions là déjà.
Ah oui, 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 oui.
Les réactions très bonnes,
j'imagine. J'ai des retours. Alors vous savez, bon, j'ai des retours de toutes sortes, mais ce qui est généralement plutôt chaleureux, et puis bon, pas mal de gens se reconnaissent dans le sujet, puisque c'est un sujet finalement assez universel. La seule chose qui m'énerve, c'est quand j'ai des lecteurs peut-être trop proches de moi qui ont tendance un peu à traiter ce que raconte le livre un peu comme une suite de symptômes, vous voyez.
Ouais.
Il y a des gens qui veulent absolument vous juger sur le plan psychologique, ce qui m'intéresse pas du tout, j'ai pas besoin de ça.
Ou chercher la petite bête, il y a peut-être des secrets.
Moi, si vous voulez, je suis pas là pour raconter mes malheurs, ça n'aurait aucun intérêt. Je suis là.
Non, puis c'est un livre joyeux quand même.
Je suis là à la fois pour faire rire le lecteur et pour lui apporter un plaisir de lecture et un plaisir de littérature.
Alors moi j'ai bien aimé, alors est-ce que pour vous la première et dernière phrase a un sens? En tous les cas j'ai bien aimé votre dernière phrase, je préfère demeurer l'homme invisible et j'irai demain prendre mon thé ailleurs. Je la trouve très très belle comme dernière phrase, je préfère demeurer l'homme invisible et j'irai demain prendre mon thé ailleurs.
Oui, toujours cette volonté d'être ni vu ni connu, de ne pas être pris, de ne pas être piégé dans un rôle social et de toujours pouvoir se renouveler et partir vers d'autres aventures.
Oui, mais pourtant, vous êtes un homme de spectacle. Vous aimez l'exhibition aussi. Vous aimez
mais dans
un costume.
Dans un costume, et puis il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que finalement, j'ai bien aimé, là, j'ai fait des vidéos qui accompagnent le livre, où je me mets en scène déguisé dans différents personnages. Par exemple, je visite un endroit qui est à côté de la maison de Verlaine, donc je me déguise en Verlaine, ou alors je me déguise en Phèdre, en Cocotte 1900, etc. Donc là, je retrouve le goût du travestissement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. J'ai fait du théâtre, mais il y a un côté popote, vous revenez tous les soirs, vous êtes là avec votre mise dans les coulisses. Moi, je m'ennuie assez vite. Finalement, il n'y a que l'écriture qui me permet à chaque fois de partir ailleurs. Parce que je m'ennuie jamais dans l'écriture.
Ouais. Et puis, je disais tout à l'heure, c'est vrai, il y a le portrait de vos parents qui est derrière. Il y a cette phrase de votre père. Il y a toujours, disait mon père, un clou auquel accrocher mon angoisse. Donc, il y a des petites phrases comme ça, des petits... du grain, j'allais dire, comme une photo qui a du grain. Ça apporte une sorte d'arrière-plan. D'arrière-plan à l'anecdotique, parce qu'il y a l'anecdotique, il y a la ville, il y a la vie, et puis il y a votre histoire, mais il y a vous aussi vous-même. Donc c'est les êtres qui vous ont accompagné qui sont toujours là. Voilà, vos fantômes, puisque vous parliez de fantômes tout à l'heure.
Oui, bien sûr, je pense qu'on revit toujours une histoire, une histoire qu'on n'a pas décidée. On est toujours... agit par une histoire qui vous précède. Et le tout, c'est d'arriver à quand même trouver votre place dans cette histoire sans qu'elle vous étouffe trop.
Ben là, vous l'avez très bien trouvé. Un fil rouge se révèle, dites-vous, ce besoin effréné depuis toujours de me recréer un père, une famille qui appartiennent au passé. L'écriture donc de livre, si j'ai bien compris, l'écriture de ce livre d'Oël Herpe s'est fait au fur et à mesure. Donc vous êtes quelqu'un qui écrivait plutôt le matin, etc.
Oui.
Est-ce que, comment alors maintenant est votre bibliothèque? Parce qu'il y en a une à Paris, une à la campagne. Comment c'est? Il y a une bibliothèque cinématographique.
Bonne question. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai gardé à Paris tout ce qui concerne le cinéma, puisque ma raison sociale, c'est quand même d'être enseignant-chercheur en histoire du cinéma.
Ouais.
Et je fais des travaux d'historien du cinéma. Donc, du coup, j'ai besoin de ces livres quand même à portée de la main. Donc, j'en ai quand même pas mal. Hein. Et puis, à la campagne, j'ai mis tout ce qui concerne à la fois la littérature, les beaux-arts, le théâtre, etc. Et c'est vrai que j'en ai pas mal. Et puis, je découvre, je dois l'avouer, quand même, la possibilité de lire des livres en ligne.
Avec Gallica, par exemple.
Oui. Et puis des sites moins légaux, donc que je ne citerai pas ici. Donc ça, c'est vrai que ça renouvelle un peu mon rapport à la littérature et ça m'amène à lire peut-être plus de livres contemporains.
Ouais, plus de livres contemporains. Est-ce que vous avez le sens du personnage d'Oël Herpe? Vos agents immobiliers sont des personnages. Les silhouettes que vous croisez sont des personnages. Quel est un peu votre personnage de roman préféré? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez plus jeune? On a tous eu, quand on était gamin, adolescent, des personnages de romans qui nous ont fait des passe-murailles, des êtres entre fiction et réalité qui nous ont fait rêver.
C'est curieux, c'est pas tellement ce qui a mobilisé mon amour de la littérature, mais enfin, bon, c'est vrai que si je pense en tout cas à la période de ma jeunesse. C'est vrai que je pense quand même qu'un livre qui m'a fait basculer, parce que je lisais que du, en fait quand j'étais ado je lisais que du théâtre.
Hein. Ah oui. C'est rare.
Oui, j'ai mis très très longtemps, mais je lisais, j'étais assez pointu, mais sur des choses très très oubliées. Je lisais tout le répertoire de la petite illustration. Oh. Et c'est vraiment en première ou en terminale que notre professeur, qui était un Brechtien d'ailleurs, qui avait travaillé avec Jean Villard, qui s'appelait Armand Jacob, nous a fait lire Thérèse d'Esquerou. Mmh. Et c'est vrai que ça a été la découverte de Mauriac, et particulièrement de ce livre, m'a fait basculer dans le roman. Et je pense que, voilà, si je devais citer un personnage, je crois que ce personnage de Thérèse, avec tout ce que justement elle a d'indéterminé, d'indéfini, de mystérieux, de pas fixé, me hante encore aujourd'hui. Je sais que Mauriac est plus très à la mode, mais moi je considère quand même que c'est je continue à considérer que c'est un grand romancier.
C'est un grand romancier.
Et particulièrement dans ce livre.
Est-ce qu'il y a une lecture qui vous a déclenché l'envie d'écrire? Enfin là, vous avez répondu en partie à cette question déjà. Ou un écrivain qui vous a vraiment, quand vous l'avez lu, ça a été pour vous déterminant pour l'écriture? Parce qu'il y a des écrivains qu'on admire, d'autres qui vous donnent envie de vous y mettre. Voilà.
Je viens de parler de Mauriac, qui m'a beaucoup marqué. Je pense que je ressens quand j'écris l'influence d'un écrivain comme celui-là, parce qu'il a une musicalité. Mais une musicalité, un rythme, une poésie qui m'ont beaucoup marqué. Ensuite, j'ai découvert d'autres écrivains m'ont marqué plus tard, comme Colette, par exemple. Mais c'est vrai que je pense que je préfère citer des écrivains que j'ai lus à cette époque-là, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se grave très durablement à partir des écrivains que vous lisez quand vous avez 19-20 ans. Si vraiment vous les aimez, il y a une musique chez eux qui se grave en vous et qui va vous s'imprimer en vous quand vous écrivez. Je ressens ce souvenir de Mauriac peut-être plus que d'aucun autre écrivain quand j'écris. Alors ensuite, j'ai aimé des écrivains très différents. J'ai aimé Proust, évidemment. Mais je pense aussi que par ailleurs, faut pas non plus se donner des maîtres à écrire trop écrasants. J'admire énormément Proust, qui pour moi est évidemment un sommet absolu de la littérature, auquel je reviens régulièrement. Mais je pense que je m'en tiens un peu à distance malgré tout, parce que je pense qu'il faut pas non plus se mettre à l'ombre de géants trop étouffants et qui vont c'est un peu comme Godard en cinéma, si vous voulez, qui vont un peu vous empêcher d'avancer, parce qu'ils sont tellement immenses que, à leur ombre, vous avez l'impression d'être rien du tout, et vous avez raison d'ailleurs. Donc, je préfère me choisir des petits maîtres. Mmh. Là, vous voyez, par exemple, ça m'a frappé, hein, je lis beaucoup quand je suis à la campagne, et j'ai relu Poil de carotte de Jules Renard, pas lu depuis 30 ans, et je me suis dit, bah, finalement, j'avais pas mauvais goût, parce que je lisais ça quand j'avais 16 ans, je trouvais ça vachement bien, et bah, oui, c'est vrai que c'est vachement bien, c'est un grand écrivain, Jules Renard.
Et le journal de Jules Renard aussi.
Bien sûr, oui. Voilà, mais ça, c'est des écrivains qui m'ont marqué, oui.
Est-ce qu'il y a une discipline littéraire que vous n'avez pas encore abordée, que vous aimeriez aborder ?
Le théâtre.
Ouais.
J'avoue que je regrette un peu de jamais avoir été capable de... Même jamais avoir essayé d'écrire une pièce de théâtre. C'est un peu absurde, étant donné que j'adore le théâtre et que c'est quand même ma première passion. Disons, l'écriture s'est jamais présentée à moi sous forme de personnages, de situations, etc. Et voilà, je me dis que c'est peut-être quelque chose que je pourrais creuser.
Et c'est vrai que le théâtre, mais en tous les cas, pour revenir à Mauriac, c'est le point commun avec vous, Mauriac, c'est la formule courte quand même.
Ben oui,
Ce sont des romans assez denses,
ben voilà, oui.
Et pas des poids lourds. Enfin, je veux dire, c'est des livres. Et vous aussi, vous avez fait des ouvrages denses, mais
il y a le goût de la formule, il y a le goût de l'observation, il y a ce côté Asmodée dont je parlais tout à l'heure. Il a écrit une pièce qui porte ce titre que j'ai montée d'ailleurs quand j'étais ado. Et puis il y a ce mélange de très catholique chez lui et peut-être tout à fait laïque chez moi, de méchanceté, d'apparente méchanceté et quand même de vraie naïveté ou disons un côté fleur bleue même, je dirais, en tout cas très idéaliste. Je suis beaucoup moins méchant que j'en ai l'air.
Bah, vous n'êtes pas méchant, alors là on rigole beaucoup dans votre livre d'O.L. Herbe. Vos projets, là vous travaillez sur quoi en ce moment
Écoutez, là je tout simplement j'écris en ce moment un certain nombre d'entrées pour un dictionnaire Robert Bresson que supervise mon ami Antoine Debecq.
Ah oui.
Donc voilà, donc ça me replonge dans l'œuvre de Bresson avec Délice d'ailleurs. Donc c'est un travail d'historien du cinéma. Mais ensuite, j'ai recommencé à écrire quelque chose de... Voilà, donc je ne suis pas tout à fait content, mais là aussi je vais creuser un peu cette piste ou peut-être une autre. Voilà, il ne faut pas se précipiter, il faut écrire quand on sent que c'est mûr et que voilà, le désir est là.
Et que le livre vous appelle, le texte.
Voilà, là aussi c'est le livre qui décide à votre place. Il ne faut surtout pas partir dans des choses trop théoriques.
Exactement. Est-ce qu'il y a des prochaines rencontres qu'on peut annoncer à nos auditeurs ?
Alors, la plus prochaine, c'est au Salon du Livre, à la Fête du Livre d'Albi, les 24 et 25 mai, où j'aurai le plaisir de signer mon livre. Et on est en train d'organiser, mais je ne peux pas vous préciser le lieu exactement, ça se passera dans les parages de la BNF, rue de Richelieu, une rencontre, puisque vous parliez de Thomas Clair, on va faire une sorte de lecture croisée de nos deux livres, autour du thème qui revient dans les deux, de la flânerie.
Et oui, très très bien.
De la flânerie et de la... Voilà, de la promenade dans Paris.
Vous avez un blog, vous avez un site internet
Oui, c'est plutôt un site où j'ai publié en son temps un certain nombre de bonnes feuilles de mon journal. C'est pas tout à fait un blog, mais enfin, en tout cas, il est alimenté régulièrement. Il y a beaucoup de choses, et notamment des articles de presse, surtout des vidéos de conférences ou d'interventions, etc. Enfin, c'est vrai que j'ai un peu ce côté archiviste. J'aime bien faire un peu un catalogue raisonné de mon travail. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est ce désir de rien laisser perdre qui est paradoxal, puisque je raconte dans le livre que je jette, mais j'aime aussi garder.
Bah, vous aimez garder, vous aimez archiver, vous aimez aussi le lien avec les lecteurs, avec...
Oui, bien sûr.
Vous aimez le lien, vous créez du lien, vous créez dans ce labyrinthe de votre vie et de nos vies à tous, vous aimez créer du lien et remonter un peu... le cours du temps.
Oui, puis j'aime bien parler avec des lecteurs, parce que ça m'arrive d'avoir des lecteurs qui m'écrivent sur Instagram ou Facebook, et j'aime parler avec eux.
Donc nos auditeurs qui vous ont écouté aujourd'hui peuvent vous envoyer un mail sur votre site internet.
Le mieux, c'est de m'envoyer sur ma page Instagram ou ma page Facebook, ce sera plus rapide.
Voilà, et puis ils peuvent vous suivre toutes vos rencontres, toutes vos conférences, etc. Bah, je vous remercie, Noël Herpe.
Merci à vous de m'avoir si bien lu.
Bah, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup apprécié en tous les cas. J'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup votre écriture. Je trouve qu'elle est nourrie par, par vos lectures, par votre vie aussi, et la vie est faite de lectures et de contre-lectures. Votre livre « Je déménage » qui vient de paraître au Nouvel Attila avec cette très très belle couverture, franchement, et colorée. C'est comme un jeu parce qu'il y a un côté ludique.
Oui.
Il y a un côté ludique. Là, c'est pas
c'est
le
un jeu de loi.
C'est un jeu de loi.
Ou un jeu de soi.
Exactement. Merci à vous, Noël R, pour ce très très beau livre, Je déménage, qui vient de paraître au Nouvel Attila. J'en profite aussi pour annoncer la dernière fois, j'avais fait une émission sur Marceline Desbordes-Valmore. Donc, il y a un spectacle de Kirill Zaborov et Maximilien Frisch, L'amour folle, poésie narrative ou narration poétique d'un côté, improvisation en prélude et orgue jazz de l'autre. Donc, où il y aura des textes de Louis Aragon, Jean Cocteau, Paul Verlaine, André Suarez et Marceline Desbordes-Valmore, c'est pour ça que je cite. C'est le 15 mai à l'espace Bernanos, 4 rue du Havre, dans le 9e, réservation obligatoire. 15 mai, espace Bernanos. Donc, peut-être faut-il aller sur le site de l'espace Bernanos pour assister à cette rencontre de poésie narrative, je crois, organisée par Maximilien Frisch. Voilà. Je vous remercie tous. Je remercie Gaël qui nous a accompagnés avec brio. Je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis, vous pouvez aller sur le site de Radio Libertaire pour télécharger ou podcaster, comme on dit, l'émission. Et puis après, vous avez un lien. Puis vous faites comme Noël Herp, vous faites le lien, voilà, avec vos différents petits bouts d'histoire, et puis vous le transmettez à qui vous voulez. Voilà. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
Papier peint jauni qu'on a posé hier a tout écrit en lui, nos joies et nos colères, toutes nos intimités qui résonnent dans ses murs s'écrouleront un matin dans une dernière fêlure. Je ne change pas d'âge, je change d'adresse. Je mets les souvenirs en cage, le temps d'un carton, d'une caisse. C'est des visages, des habitudes que l'on laisse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Cette photo jaunie qui m'accompagne encore me fait dire qu'aujourd'hui trier c'est du confort. D'autres levaient le camp dans les brouillards de l'aube. Un piano sur une charrette entre espoir et exode. Je ne change pas d'âge, je change d'adresse. Je mets les souvenirs en cage, le temps d'un carton, d'une caisse. C'est des visages, des habitudes que l'on laisse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Cette mèche jaunie que je serre si fort, celle de vies endormies quand mon jeune âge dort. Cet enfant repoussait les planchers, les plafonds. Un rêve de liberté au-delà des maisons. Je ne change pas d'âge, je change d'adresse. Je mets les souvenirs en cage, le temps d'un carton, d'une caisse. C'est des visages, des habitudes que l'on laisse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. change pas d'âge, je change d'adresse. Je mets les souvenirs en cage, le temps d'un carton d'une caisse. C'est des visages, des habitudes que l'on laisse. Je déménage, j'emporte toute la tendresse. Je déménage.